Alors, on va lire dans Romains 3. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent, il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Reste-t-il encore une raison de se vanter ? Non, cela est exclu. En vertu de quel principe ? Celui de l'obéissance à la loi ? Non, mais selon le principe de la foi. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi.
Le deuxième texte est écrit dans Éphésiens 2, les versets 8 à 11. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions.
Et oui, vous avez vu le titre « Luther pour les nuls ». Avec un clin d'œil ou une allusion évidente à la série de livres pour tout public, le public que nous sommes. Mais j'ai ajouté un titre pour compléter un peu, je trouvais que ça sonnait pas mal, « Luther pour les nuls » ou « La grâce pour tous ». Ou la « sola gratia », donc une expression latine, mais vous l'avez entendu dans la petite scénette. On parlait ou on écrivait surtout latin à l'époque dans les milieux académiques. Donc la sola gratia, la grâce seule. Et puis il y a eu d'autres seuls. Il y a la foi seule, l'écriture seule, Christ seul, à Dieu seul la gloire. Ce sont les cinq maximes, on va dire, de la réforme. Mais il me semble que la plus importante avec la sola scriptura, l'écriture seule, c'est cette sola gratia, la grâce seule. Elle est centrale chez Luther. Et pourtant, Luther n'est pas le seul à parler de la grâce. Déjà au IVe siècle, saint Augustin, évêque d'Hippone en Afrique du Nord, écrivait « L'homme n'est pas justifié par les préceptes d'une vie droite, mais par la foi en Jésus-Christ. » C'est-à-dire non par la loi des œuvres, mais par celle de la foi, non par la lettre, mais par l'esprit, non pas par les mérites de ses actes, mais par une grâce gratuite. Alors là, c'est une fameuse redondance, une grâce gratuite. Et Luther a été influencé par saint Augustin. On a retrouvé un livre des écrits de saint Augustin où Luther a écrit en marge. Voilà, cette phrase a trouvé un écho dans mon cœur sur la grâce. Et le monastère dans lequel il entre à 22 ans, Luther, est un monastère augustinien. Et son père supérieur est un disciple, entre guillemets, d'Augustin, un homme de grâce qui va inviter Martin à chercher des réponses à ses questions dans la Bible, parce qu'il en a des questions, le jeune Martin, à 22 ans. Non, Luther n'est pas le seul à parler de la grâce. Il y a Bernard de Clairvaux aussi, ce moine cistercien du XIIe siècle, qui dit « Jésus seul fut un sacrifice capable de satisfaire à la justice divine. Et à lui seul, il fut une justice suffisante. » Qu'est-ce qui sauve ? Ce héros de la foi catholique, hein, au XIIe siècle. C'est la grâce, dit-il. Non, Luther n'est pas le seul à parler de la grâce, mais il est le seul à parler de la grâce seule. Alors, qu'est-ce que la grâce seule ? Il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde était d'accord qu'on était sauvé par grâce, que c'était un don par la grâce gratuite de Dieu, que c'était un don de Dieu, que tout venait de lui, cela ne faisait aucun doute, mais dans la réalité, dans la vie de tous les jours, on ajoutait un petit quelque chose par-ci, ou un petit quelque chose par-là. Un petit peu comme une offre qu'on vous a faite sur Internet pour un livre gratuit. Un livre sur une nouvelle recette, ou la nouvelle cuisine, ou la conquête de l'espace, un truc comme ça. Un livre dont personne n'a besoin, mais qui est quand même gratuit. Et puis vous passez commande et vous vous apercevez qu'à la fin, il y a quand même 40 euros à payer. Alors vous prenez votre téléphone portable, et s'il y a un numéro laissé sur le site, hein, et vous téléphonez, et puis vous vous entendez dire qu'il y a des frais de dossier. Il y a des frais d'inscription, et puis il y a des frais de livraison. Mais mon bon monsieur, vous ne croyez pas quand même que la gratuité est gratuite, ça existe de nos jours. Faut raquer, mon ami. Et on vous fait bien comprendre que vous êtes un doux rêveur si vous croyez à la gratuité vraiment gratuite. Mais si on pourrait pousser l'illustration un peu plus loin et l'adapter tout à fait au cas qui nous occupe, à savoir la grâce qui vient de Dieu. Et si on pense à cette situation, on serait plutôt dans la situation où ce serait le client qui demanderait à payer quelque chose. Comment ? Il n'y a pas de frais ? C'est gratuit ? Mais je veux payer les frais d'inscription, les frais de dossier, les frais de livraison. Je le veux ! Mais il n'y en a pas, c'est gratuit, dit le vendeur, entre guillemets le vendeur. Mais je veux payer quand même parce que les trucs gratuits, je m'en méfie. Et je me dis que ça explique aussi le succès des indulgences à l'époque. Parce que c'est plus facile de payer son état de grâce, c'est-à-dire son salut, son entrée au paradis, et de le mériter, que de le recevoir gratuitement. Vous serez d'accord avec moi, la gratuité a quelque chose d'inconfortable. Mais ces indulgences, comme les frais de dossier ou d'inscription, sont une énormité par rapport à cette notion de grâce gratuite. Par l'indulgence, vous vous rendez compte, on s'achète une place au paradis, ou en tout cas, on y va plus vite, on sort plus vite du purgatoire. Et ça paraît gros, ça paraît grossier, et c'est surtout scandaleux, mais tout le monde avalait la couleuvre des indulgences à l'époque parce que ça arrangeait quelque part tout le monde, les vendeurs et les acheteurs. Ça arrangeait tout le monde sauf Luther. Parce qu'il a lu saint Augustin, et parce que surtout il a lu la Bible. Et c'est pour lui insupportable parce qu'il vient de donner cours à l'université de Wittenberg sur l'épître aux Romains. Et que dans cette épître aux Romains que Paul, l'apôtre Paul, écrit aux chrétiens qui sont à Rome, il y découvre une notion de justification qui nous est donnée par grâce, qui est très proche de cette idée de grâce. Et on va passer un tout petit moment, si vous me le permettez, à parler de cela, parce que c'est central, non seulement pour la réforme et pour Luther, mais c'est central aussi pour nous dans notre relation avec le Dieu de la grâce. Luther est là, dans son monastère, il est monté en grade parce qu'il a une force de travail considérable, et il prend la chaire de théologie à l'université de Wittenberg. Et il prépare donc son cours sur l'épître aux Romains, et là, il va faire une découverte extraordinaire sur le sens d'un mot, un seul mot, le mot « justice », la justice de Dieu. Et il a toujours pensé ce mot « justice » dans le sens où Dieu exerce sa justice sur les hommes. Dieu juste juge les hommes et les femmes dans ce qu'ils font de bien, c'est-à-dire pas grand-chose, et dans ce qu'ils font de mal, c'est-à-dire un fameux paquet, si on est honnête. Et Luther est très honnête avec lui-même. Et s'il rentre au couvent à 22 ans, c'est bien parce qu'il se sent tellement coupable et insuffisant devant Dieu. Et qu'il a tellement de mal de vivre avec cette culpabilité qui l'écrase. Il rentre dans ce couvent. Mais il s'aperçoit bien vite que les mortifications qu'il y vit, les exercices spirituels qu'il y fait, les privations, les jeûnes, malgré tout ça, il n'arrive pas à se débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Il se sent toujours écrasé sous le poids de cette justice de Dieu qui est comme pour lui, qui est pour lui comme une épée de Damoclès ou comme le froid du tranchant de la hache sur sa nuque, comme le condamné à mort sur le billot. Il est là dans ce monastère. Mais il découvre dans la Bible un autre sens du mot justice, qu'il appelle la justice passive, c'est-à-dire la justice pour laquelle on n'a rien à faire, qui nous est donnée par Dieu lui-même, en Jésus-Christ. Et on peut l'appeler justification. Dieu n'exerce pas la justice, il nous déclare juste en Jésus-Christ. C'est la justification par la foi. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ à la croix. Et pour Luther, ce sera une révolution dans le sens où il va voir les choses d'une manière toute nouvelle. Il ne doit pas chercher à se rendre juste lui-même, d'être son propre juste, pour gagner l'indulgence de Dieu à son égard. Non, Dieu le déclare juste en Jésus-Christ par le moyen de la foi, c'est-à-dire dans le fait qu'on fait confiance en son amour et sa justice qui convergent à la croix dans le sacrifice de Christ. Le sacrifice de Christ, c'est la conjonction de l'amour de Dieu pour les hommes et de la justice de Dieu. Avoir la foi, c'est abandonner sa chasse au mérite, cette auto-justification, et accueillir la justice de Dieu en Jésus-Christ. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est pas le fruit des œuvres que vous auriez accomplies. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Et pour Luther, c'est une véritable illumination. Regardez comment il en parle. « Aussitôt, je me sentis renaître. Il me sembla être entré par des portes largement ouvertes au paradis même. Dès lors, l'Écriture tout entière prit à mes yeux un aspect nouveau. Autant j'avais détesté ce terme de justice de Dieu, dans son sens actif, où Dieu exerce sa justice, autant j'aimais, je chérissais maintenant ce mot si doux d'une justice que Dieu me donne, hein, par sa grâce, par le moyen de la foi. » Et on comprend mieux dès lors que Luther, qui vient de découvrir cette justification par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, puisse rentrer dans une colère retentissante, mondialement retentissante, quand Tetzel vient lui parler des indulgences, ou quand il parle des indulgences comme moyen de gagner son salut ou d'être justifié. Non, dit Luther, la grâce seule, seulement la grâce, pleinement suffisante. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher non plus. Mais à l'époque, il y a une question qui est rapidement venue sur le devant de la scène, c'est « et les œuvres ?» Et les bonnes œuvres ? Qu'est-ce qu'en est-il, comme dirait Pierre Desproges, au XVIe siècle, non, au XXe siècle ? Et quand on parle des bonnes œuvres, on ne parle pas de faire traverser la vieille dame sur le passage clouté, même si ça peut être une bonne œuvre. Mais c'est aussi, dans les bonnes œuvres, on met la marche dans la vie chrétienne. Imiter Christ, la pratique du bien, la pratique de l'amour, le service, l'éthique, la poursuite d'une vie morale, l'amour et le service du prochain, je l'ai déjà dit, ou la sanctification, pour utiliser un mot un peu technique, c'est-à-dire marcher dans une vie de sainteté, non pas dans la perfection, mais à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que, en mettant l'accent sur la grâce seule, ne risque-t-on pas d'oublier tout cet aspect de l'appel de Christ à le suivre ? Et on a très vite accusé Luther d'être un peu laxiste sur les œuvres à accomplir, sur l'éthique chrétienne, et même d'oublier un peu trop vite la lettre de Jacques, où Jacques écrit que la foi sans les œuvres n'est pas authentique. Et Luther accuse le coup. Mais il est tellement l'apôtre de la grâce et de la grâce seule qu'il va peut-être parfois verser dans l'excès. Et il va dire d'ailleurs que l'épître de Jacques est une épître de paille. T'en fous. Entre guillemets. Et Jacques sait y faire. Luther sait y faire. Parce que c'est un bon prédicateur. C'est un bon orateur. Et il veut communiquer sur la grâce et la grâce seule, la sola gratia. Et il en rajoute un peu parfois. Mais il n'est pas le seul à en rajouter. Il y a des précédents bibliques. Il y a Paul qui en rajoute. Dans l'Épître aux Romains, quand il parle de la grâce, il dit quoi ? Pécherions-nous pour que la grâce abonde ? Et oui, quand on a vraiment compris la grâce, on se dit, si là où le péché abonde, la grâce surabonde, eh ben je vais aller dans le péché pour faire abonder le péché et surtout pour faire surabonder la grâce. Mais Paul va répondre non. On ne va pas se mettre à faire le mal pour profiter encore plus de la grâce. Cela n'aurait aucun sens. Et Luther va dire la même chose. Il n'est pas question de vivre comme un patachon, mais de savoir ce que l'on place en premier dans sa vie. Et c'est la grâce que l'on veut mettre en premier dans sa vie, comme un moyen de salut, la grâce seule, par la foi seule. Et il va dire, la foi en Christ, en effet, ne nous affranchit pas des œuvres, mais de l'opinion que l'on en a. C'est-à-dire, à savoir, la sotte prétention de chercher la justification par leurs moyens, par le moyen des œuvres. Donc, Luther ne nous dit pas de ne plus faire de bonnes œuvres, ne nous dit pas de ne pas aimer notre prochain, de ne pas grandir à la ressemblance de Christ. Il nous dit que parce que nous sommes sauvés par la seule grâce de Dieu, nous allons pouvoir accomplir ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. On va pouvoir vivre une vie de disciple, on va pouvoir imiter Christ dans l'amour du prochain et dans son service. Et il va prendre l'image du bon arbre qui donne de bons fruits. Le bon arbre qui est planté là où il faut, dans la parole de Dieu qui nous révèle sa grâce et qui porte quasi naturellement de bons fruits. Et il va nous parler, Luther, des œuvres, de l'état d'esprit dans lequel on peut accomplir ces œuvres bonnes, cette vie chrétienne. Et c'est un état d'esprit qu'il nous faut peut-être retenir. Luther parle de la joie. La joie dans les œuvres, et non pas le devoir, la joie, parce qu'on est planté dans la grâce. Et il prend un autre exemple, il prend l'exemple d'un couple, et il paraît que c'est une illustration à la Luther, ça je l'ai lu. Et voilà ce qu'il dit, des œuvres oui, mais dans la joie. Des époux unis dans l'amour ont-ils besoin d'être renseignés par le code ou par le règlement ou par le devoir comment ils doivent se comporter, de ce qu'ils doivent se dire ou ne pas se dire, ce qu'ils doivent faire ou ne pas se faire, point d'interrogation. Mais non, leur cœur le leur dicte. Ainsi, le chrétien que le cœur uni à Dieu sait tout ce qu'il a à faire et a l'élan nécessaire pour le faire. Il agit toujours joyeusement et librement. Et moi, j'aime bien cette idée. Alors, il idéalise peut-être la vie de couple. Il idéalise un petit peu la vie chrétienne aussi, quand il parle, il a toujours l'élan nécessaire. On l'a pas toujours, l'élan, ni dans la vie de couple, ni dans la vie chrétienne. Mais quand même, Luther nous fait du bien, parce qu'il dit quelque chose de vrai par rapport à la grâce. Et le vrai nous fait du bien. Et ça nous fait du bien parce que c'est vrai. Et il me semble que c'est là la première conséquence de la sola gratia dans notre vie. La sola gratia et nous, et nous, et nous. Eh bien, vivons notre vie dans la joie. Notre vie chrétienne, mais notre vie tout court aussi, dans la joie. La joie de la grâce. Deuxièmement, trouvons notre sécurité en Christ, notre paix en Christ. Calmons-nous. Calm down. On est tellement stressé aujourd'hui. On veut, par tous les moyens, justifier notre existence. On est sous tension constante. La sola gratia nous permet de trouver la paix. Et regardez ce qu'il dit. Ou écoutez ce qu'il dit. Non, regardez, puisque ça va apparaître sur l'écran. Mais maintenant, puisque Dieu a enlevé mon salut pour le mettre hors de mon arbitrage, c'est-à-dire, mon salut ne dépend pas de moi. Je ne peux pas être l'arbitre de mon salut. Et qu'il l'a recueilli dans le sien, dans son arbitrage. C'est lui qui fait tout. Puisqu'il a promis de me sauver, non par mon œuvre ou ma course, mais par sa grâce et sa miséricorde, je suis sûr et certain qu'il est fidèle et ne mentira pas. Et en outre, qu'il est grand et puissant. si bien qu'aucun des démons, aucune des adversités ne pourront me briser ou m'arracher à lui. » Et il cite Jean 10, « Personne ne les ravira de ma main, car le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. » Et j'aimerais imiter, et je vais mal le faire, mais Yann Newbery, qui était notre orateur la semaine dernière, et qui, quand il disait une belle phrase ou quand il citait un beau verset, et je le fais pour ce passage de Luther, c'est pas magnifique ça ? Vous vous souvenez, hein ? Il l'a dit au moins 10 fois. C'est pas magnifique ça ? Et puis, dernière conséquence, après vivons notre vie dans la joie, trouvons notre sécurité en Christ, faisons la chasse aux indulgences. Aux indulgences dans nos vies. Alors qu'est-ce que ça peut être aujourd'hui une indulgence ? Eh bien, c'est tout ce qu'on peut ajouter à la grâce pour faire sa propre justice, pour justifier son existence, comme j'aime le dire, ou pire, tout ce que l'on peut substituer à la grâce pour se fabriquer son propre salut, pour se sauver soi-même, pour se faire un nom sous le soleil, pour se faire un nom tout seul, pour se faire une place au soleil. Je me dis qu'en tant que chrétien, on peut avoir découvert la grâce à un moment et vécu un départ très exaltant, mais petit à petit, on fait comme l'Église catholique à l'époque, au XVIe siècle, on ajoute des choses par-ci, par-là, et pour finir, on a tout un amoncellement de choses ou de pensées ou de croyances qui nous écrasent, qui nous enferment et qui nous éloignent de la joie de la grâce de Dieu. Et je me dis que de temps en temps, il faudrait pouvoir les secouer, tout cet amoncellement de choses autour de nous. Un peu comme un chien qui sort de l'eau et qui part à un mouvement oscillatoire absolument incroyable. Vous l'avez vu ? Parvient à se débarrasser de toute la flotte sur son petit corps. J'ai lu quelque part que lorsqu'un chien s'ébroue, c'est l'ébrouement du chien, il perd 70% de l'eau de sa fourrure en 4 secondes. Et je vais vous demander de vous lever et de faire le même exercice que le chien. Non, faire un autre exercice, de se poser la question. Qu'est-ce que j'ai tendance à ajouter à la grâce pour me justifier ou pour justifier mon existence ? Et pour mieux saisir peut-être cette tendance, je pourrais me poser une autre question. Quels sont les critères dont je me sers pour juger les autres ? Est-ce que je juge les autres sur leur capacité à réussir dans la vie ? Est-ce que je juge les autres sur leur capacité de travail ? Est-ce que je juge les autres sur leur diplôme académique ? Moi, j'ai rencontré un professeur, j'ai mangé avec lui, et Yvonne était là. Il n'a pas arrêté de parler de personnes qu'il connaissait qui étaient brillants. Oui, celui-là, il est brillant. Eh bien, à la fin du repas, je me suis senti évidemment minable, mais j'ai compris que pour lui, c'était un critère important, la brillance, être brillant. Mais est-ce que nos critères pour juger les autres, ça pourrait être sur la piété ? Ça c'est quelqu'un, il aime le Seigneur celui-là. C'est super, hein ? C'est un critère. Sur leur volonté de s'en sortir ou même sur leur capacité à aimer leur prochain ? Celui-là, il est tout pour les autres. Mais donc ces critères par lesquels nous jugeons les autres, c'est un bon signe pour savoir quelle serait notre tendance à l'auto-justification. Les critères dont je me sers moi-même pour m'auto-justifier, pour me sauver moi-même, pour établir ma propre justice. Ouais, faire la chasse aux indulgences, celles qui sont évidentes, mais celles qui le sont peut-être moins. Et pas juste pour un exercice d'introspection, mais pour retrouver la grâce. La grâce seule, la sola gratia, celle qui nous donne la joie et la paix. que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen.